à Rencontre spirituelle aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès d'un des hommes les plus remarquables de ce siècle, un prêtre orthodoxe, russe, Alexandre Mène. Ça ne dit malheureusement pas grand-chose à la plupart des gens, mais c'est un des plus grands prêtres, un des hommes les plus profonds, les plus vastes, que la très sainte Église de Russie a donné au monde au cours du XXe siècle. C'était le 9 septembre 1990. Ce prêtre orthodoxe de 55 ans était tué à coups de hache aux environs de Moscou. J'insiste sur « à coups de hache », je vous expliquerai tout à l'heure. Ce meurtre que l'on ne peut s'empêcher de rapprocher de celui du père Popiełuszko, ce prêtre polonais dont je vous ai parlé le 19 octobre 1995, qui a été assassiné aussi quelques années plus tôt en Pologne. Et tout ça a révélé au monde la personnalité d'Alexandre Mène qui, par son rayonnement spirituel extraordinaire, était en train d'occuper dans la société, à Moscou, dans les environs, la place laissée vide par la mort de Sakharov. Un jour, je vous parlerai de Sakharov. Et c'est peut-être d'ailleurs la raison de son assassinat, mais pas la seule. En résumé, soit dit que Alexander, ou Alexandre en français, Mène, M-E-N, a été baptisé par un prêtre de l'Église des Catacombes. L'Église des Catacombes, oui, cette Église russe persécutée depuis tant d'années. En 1935, l'année même de sa naissance, c'était au plus fort des persécutions staliniennes. Ces persécutions staliniennes, je vous le rappelle, qui ont tué des dizaines de millions de gens, et en particulier de chrétiens, tant les évêques, les prêtres, les religieux, des moines, des moniales, et des laïcs sans nombre, des millions de laïcs. Il fut encouragé, ce jeune homme, dans sa vocation, par le prêtre qui a baptisé la fille de Staline. C'est lié au père Yakounin et Doudko. Un jour, je vous parlerai du père Doudko. Il y a un beau livre paru sur le père Doudko intitulé « L'espérance qui est en nous » dans la collection Livres de vie aux éditions du Seuil. Était ami de Solzhenitsyn, cet Alexandre Mène, était régulièrement harcelé par le KGB, la police communiste. Il a vécu en prise directe sur les événements traversés par son pays depuis 50 ans. C'est la vie et l'action de cette figure exceptionnelle que je voudrais, au cours de cette trop brève émission, vous révéler un peu. Cette émission que je dédie à M. Nikolaï Diouskine, qui, comme vous le savez, est souvent mon metteur en onde. Nikolaï Diouskine est un homme merveilleux aussi, c'est un russe orthodoxe, qui est avec nous ici à Radio Ville-Marie, c'est un grand admirateur du père Alexandre Mène. Je lui ai offert un beau portrait d'Alexandre Mène, il en était tout content. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Alexandre Mène, le père Alexandre, a été qualifié par un intellectuel orthodoxe de Moscou, Serge Averentsev, de missionnaire pour une tribu d'intellectuels. C'est pas vrai. C'est vrai que c'était un intellectuel, mais il ne s'occupait pas que d'une tribu d'intellectuels. Le père Alexandre Mène était bien plus là. Il était d'un grand rayonnement, c'est sûr, au sein de l'intelligentsia russe dans les années 80. Que d'intellectuels il a converti, que d'intellectuels il a fait réfléchir, que d'intellectuels il a amené au Christ, que d'intellectuels il a amené à adorer le vrai Dieu. était cependant aussi un apôtre très populaire. Il était écouté des simples babouchkas, comme on dit, vous savez, ces femmes qui portent des voiles, qui sont souvent un peu grassouillettes, et qui sont d'humbles femmes, aux doigts grossis par le travail. Les babouchkas l'aimaient beaucoup. Et en outre, il était un des prêtres de l'Église orthodoxe russe les plus ouverts à la tradition du christianisme occidental, notre tradition, la tradition du catholicisme. Comme le déclare l'igoumène, si vous voulez, le père abbé, Ignace Kreshkin, dans sa préface à une édition française d'un recueil des écrits du père Alexandre, on peut dire qu'il était un écuméniste authentique, non pas politique, un témoin et un martyr de l'unité de l'Église, j'ai bien dit un martyr de l'unité de l'Église, divisé cette Église au plan terrestre mais indivisible en Christ. C'est ce que le père Mène croyait. Le père Mène croyait que l'Église russe orthodoxe, comme l'orthodoxie en général, et l'Église catholique ne forment qu'une seule et véritable Église du Christ. Ça lui a coûté très cher. Le père Mène a payé de sa vie cet attachement indéfectible à l'évangélisation en profondeur et à l'unité des chrétiens. Il est né le 25 janvier 1935. Il est baptisé secrètement, il fallait faire ça secrètement, la même année, près du monastère de la Trinité-Saint-Serge, un monastère très 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 réputé. Alexandre Mène était né cette année-là dans une famille chrétienne d'origine juive, j'insiste, c'est un juif. Il a étudié seul la théologie et les pères de l'Église. Puis il a découvert l'œuvre de Vladimir Solovyev, dont j'ai aussi beaucoup le goût de vous parler, ce grand penseur russe de l'unité du christianisme. Et après avoir été exclu de l'université d'Irkoutsk pour sa foi chrétienne, il est ordonné diacre en 1958, donc à 23 ans. Par le père Nikolai Golubtsov, qui baptisera notamment la fille de Staline, comme je vous l'ai dit. Il est ordonné prêtre à Moscou en septembre 1960, à 25 ans. La même année, il écrit Les sources de la religion. C'est le premier tome d'une grande histoire de l'humanité qu'il va rédiger pendant 20 ans. Après avoir été chassé de deux paroisses, tout en ayant appris le grec et l'hébreu, le père Mène est nommé en 1970, à 35 ans, curé de la paroisse de Novaya Derevnia, à 30 kilomètres au nord de Moscou. Il y restera jusqu'à sa mort, en septembre 1990. En 1983 et 84, il sera menacé par le KGB au cours d'une série d'interrogatoires. Puis il sera attaqué dans la presse soviétique qui l'accusera d'avoir organisé un cercle religieux. Imaginez, il a organisé un cercle religieux. Quel drame! Vous savez que ça va devenir comme ça ici, ça s'en vient, je le sens venir. En 1988... La célébration du millénaire du baptême de la Russie a marqué la fin des persécutions systématiques déclenchées contre les chrétiens du RSS depuis 1917. Imaginez, 70 ans de persécutions épouvantables. Pas des petites persécutions comme celles que nous avons ici, non, des grandes. À partir de cette date, 1988, le père Alexandre Mène va trouver la possibilité de multiplier des conférences, puis là des prédications, dans des salles publiques de Moscou. Il va dans des usines, des clubs, des écoles, et même à la radio et à la télévision, il réussit ça. Il participe à la création d'une société biblique et d'une revue, Le Monde de la Bible. Il crée même une université orthodoxe ouverte à tous, afin d'offrir une formation théologique aux laïcs. Il crée une association à but éducatif, Renaissance culturelle. Comme nous aurions donc besoin de ça ici, une renaissance culturelle. Une vraie. Pas de la culture qui s'applique à s'étudier le dernier roman pour étudier le dernier roman et en étudier le style. Non, une renaissance culturelle profonde. La culture qui constitue tout l'homme et toute la femme, toute la société. En 1990, après des menaces de mort, il est invité comme orateur à un rassemblement religieux dans le stade olympique de Moscou. C'est pas des blagues, hein? La télévision lui commande une série d'émissions. Vous voyez sa popularité. Le 2 septembre, quelques jours avant sa mort, il inaugure une école de catéchèse pour les enfants de son village. Dans un recueil de conférences et d'homilies, qui est paru donc aux éditions du Cerf, chez les Dominicains de Paris, et intitulé « Le christianisme ne fait que commencer », comme il a raison. Comme au début du christianisme, nous scrutons toujours les évangiles pour en comprendre tout le sens, et surtout pour le vivre. Eh bien, dans ce recueil de conférences et d'homélies, le père Alexandre Maine dénonce la division des chrétiens comme un péché collectif, qu'il juge contraire à la volonté du Christ. Il n'y a rien, moi, qui me déchire plus que de voir toutes nos divisions, même à l'intérieur de l'Église catholique. Que de gens se critiquent les uns les autres, que de gens me critiquent aussi et veulent me détruire. Mais je continue, à ses yeux, aux yeux d'Alexandre Maine, ce péché de la séparation et des divisions sera surmonté non par l'exaltation de soi, l'orgueil, l'autosuffisance et la haine, mais, comme il le dit si bien, par un esprit d'amour fraternel, dans lequel la vocation des chrétiens ne peut être, sans lequel la vocation des chrétiens ne peut être réalisée. Il considère aussi que si un homme se referme sur lui-même et ne porte pas témoignage, il reste sourd au monde extérieur, il trahit sa vocation de chrétien. J'espère que vous avez bien compris ça. Hein? Si un homme se referme sur lui-même et ne porte pas témoignage, il reste sourd au monde extérieur. Ce monde, notre monde, où il y a tant d'ombre et de noirceur, tant de gens sont pris dans des tunnels où ils ne savent plus où aller. Et cet homme trahit sa vocation de chrétien. La veille de sa mort tragique, Alexandre Maine donnait une conférence à la Maison de la Technique de Moscou sous le titre « Le christianisme ne fait que commencer ». Il déclarait d'abord que la vérité n'est pas une chose que l'on reçoit facilement entre les mains, mais qu'elle ressemble à une haute montagne qu'il faut gravir en respirant difficilement, en escaladant ses contreforts, en se retournant par moments pour voir le chemin parcouru, conscient qu'il reste encore une pente abrupte à gravir. Voilà comment était cet Alexandre Maine, cet homme admirable. Ce saint, vous allez voir, un homme extraordinaire. Nous continuons avec cet ouvrage d'Alexandre Maine, « Le christianisme ne fait que commencer » paru aux éditions du Cerf. En des paroles très très fortes, le père disait lors de cette conférence « Le christianisme ne fait que commencer ». Il disait ceci, écoutez bien. « Le Christ appelle l'homme à la réalisation de l'idéal divin. Il n'y a que des hommes bornés pour s'imaginer que le christianisme est achevé, qu'il est complètement constitué. » Au IVe siècle, selon les uns, au XIIIe siècle, ou à un autre moment, selon les autres. En réalité, le christianisme n'a fait que ses premiers pas, des pas timides dans l'histoire du genre humain. Bien des paroles du Christ nous demeurent encore incompréhensibles. C'est vrai, on croit qu'on les comprend, mais quand on voit quelqu'un comme Mère Teresa qui les a vécues, on se dit, mais c'est pas pour moi. Je ne peux pas faire ça. Mais oui, on peut le faire dans la mesure de l'état dans lequel on vit. effet, dit-il, alors que la flèche de l'Évangile a pour cible l'éternité, nous sommes encore des Néandertaliens. Vous savez, les Néandertaliens, c'est les hommes du début de l'humanité, les hommes de Néandertal. Nous sommes encore des Néandertaliens de l'esprit et de la morale. Après, nous acceptons facilement, même dans l'Église, l'avortement. Alors que Mère Teresa, qui comprenait le bon sens, voyez bien que ce sont des êtres humains, on le voit, à l'écran cathodique, quand on fait une échographie. Nous sommes aveugles. Nous ne voyons rien, nous sommes nés des Néandertaliens de l'esprit et de la morale. Mais le Père Maine ajoutait, l'histoire du christianisme ne fait que commencer. Tout ce qui a été fait dans le passé, tout ce que nous appelons maintenant l'histoire du christianisme n'est que la somme des tentatives, les unes malhabiles, les autres manquées pour le réaliser. C'est pour ça que les saints surgissent comme sur un fond de boue. Nous sommes dans la boue et nous voyons le saint qui surgit, et nous nous traînons dans notre aveuglement. D'après le Père Maine, les grands saints étaient des précurseurs qui se détachaient sur un épouvantable océan de boue, de sang et de larmes. Il considère que son compatriote, le cinéaste Andrei Tarkovski, que j'aime beaucoup, a voulu montrer ceci dans son film Andrei Rublev. Vous avez déjà vu ce film sur ce grand peintre qui a fait la Trinité. Vous savez, la Sainte Trinité, les trois anges autour de la table, cette Trinité, cette icône que l'on voit un peu partout. Dans son film Andrei Rublev, Andrei Tarkovski a voulu montrer ceci. L'icône féerique, tendre, divine de la Trinité de Rublev a été créée au milieu des pires horreurs, hein? Parce que son auteur a puisé cette vision non pas dans la réalité qui l'entourait, dit le Père Maine, mais dans le monde spirituel. C'était un familier de Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux, chère Sainte Thérèse de Lisieux, que des gens méprisent, et qui est une grande jeune fille, et de Charles de Foucault, que l'on trouve un extrémiste, hein, d'un extrémiste, est allé jusqu'au bout de son amour, aussi bien dire que le Christ est un extrémiste, et que les apôtres l'étaient. Ce ne sont pas des extrémistes, ce sont des gens dévorés par l'amour. Et alors, familier de Sainte Thérèse de Lisieux et de Charles de Foucault, dont il avait les portraits sur son bureau, lui, ce prêtre orthodoxe russe, eh bien, le père Alexandre Maine a prôné avec force la réconciliation entre catholiques et orthodoxes. Et dans une lettre à une moniale orthodoxe vivant à Jérusalem et intitulée « Seul l'amour peut vaincre les schismes, les séparations », il écrivait, c'est très beau, « La différence n'est pas si profonde entre la vie spirituelle de l'Occident et celle de l'Orient, c'est-à-dire entre celle de l'Église catholique et celle de l'Église orthodoxe, c'est ça que ça veut dire. Hein? Chaque peuple, bien sûr, a ses coutumes, son profil spirituel, son histoire, mais l'Église ne peut pas être uniforme, elle doit vivre dans toutes ses formes. Ce que le Christ a fondé sur la pierre était et reste un. » Fondé sur la pierre, hein? C'est sur Saint-Pierre, quoi. Vous vous souvenez de cette parole de Jésus, « Tu es pierre, et sur cette pierre je fonderai mon Église. Les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Alors il dit ce que suit, ce que le Christ a fondé sur la pierre, était et reste un. Ce sont les hommes et leurs péchés qui sont cause de division. Et nos pères nous ont enseigné qu'il faut avoir avant tout ses propres péchés. Il faut voir avant tout ses propres péchés. Il faut les voir, les regarder, nos propres péchés. Il ajoute, en terminant, pour le salut de l'âme et la vie spirituelle, l'important, c'est la foi, la prière, l'amour, les sacrements. Je le répète, c'est élémentaire. Il y en a qui l'oublient, ils vont pas à la messe, ils prient pas. Ils aiment presque pas, ils chicanent, ils disputent, puis quant à leur foi, ils la dynamisent pas. Pour le salut de l'âme et la vie spirituelle, l'important, c'est la foi, la prière, l'amour, les sacrements. Comment peut-on avoir une vie spirituelle si on ne reçoit pas le corps vivant du Christ? Si on ne confesse pas ses fautes à un prêtre, comment faire? Il ajoute la seule possibilité pour des frères séparés de se comprendre, c'est d'être bienveillants les uns envers les autres. Et le Père Maine ajoutait, après avoir évoqué la réconciliation du pape Paul VI et du patriarche Athénagoras, « Nous ne devons pas chercher les faiblesses d'autrui, mais nous attrister des nôtres. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons espérer le pardon et la guérison. Chaque peuple a ses justes et ses ascètes manifestés et cachés. Les chrétiens d'Occident ont aussi leurs confesseurs, des maîtres spirituels authentiques, qui appellent à l'action et à l'amour chrétien. Cela doit nous réjouir, nous les orthodoxes, car il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Il ne nous sied pas d'être intolérants, jaloux et critiques. » Et telle était la conclusion d'Alexandre Maine dans ce beau discours, cette conférence. « Puisque notre Église, dit-il, reconnaît les sacrements de l'Église d'Occident, de l'Église catholique, cela veut dire qu'essentiellement, il n'y a pas deux Églises, mais bien une seule Église qui se trouve dans un état de schisme, de séparation déplorable. » Cette séparation ne peut être surmontée que par l'amour. Je ne peux que souhaiter que cette sagesse de la réconciliation sera entendue à l'heure où le pape Jean-Paul II, aujourd'hui, cherche à poursuivre le dialogue fraternel indispensable avec l'Église orthodoxe. Je vous rappelle qu'il y a une excellente biographie d'Alexandre Maine, qui m'a été prêté par le père Cadoret du Grand Séminaire. L'auteur Yves Amant, H-A-M-A-N-T, et s'est intitulé simplement « Alexandre Maine, un témoin pour la Russie de ce temps », aux éditions MAM. C'est paru en 93. Je voudrais rappeler que cette année est décédé à Montréal un diacre permanent, Victor Boldireff, un russe qui est décédé le 29 mars, et sa vie tient du roman. C'est en 1920, au cœur de la révolution russe, sa mère, dont le mari est perdu quelque part sur les champs de bataille, fuit vers l'ouest pour échapper aux bolcheviks, et à peine a-t-elle commencé son exode qu'elle accouche d'un bébé, un garçon dont le nom sera Victor Boldireff, que beaucoup d'entre nous ont connu à Montréal. Et ne pouvant le garder, ben, elle a confié un couple russe qui s'installe à Liège, en Belgique, et la mère naturelle, elle ira faire sa vie à Chypre, elle ne reverra jamais son enfant. Les parents adoptifs sont bons pour Victor, ils lui assurent une solide formation, ils l'inscrivent dans un collège catholique, classique, alors qu'eux-mêmes et Victor sont des Russes orthodoxes. Mais finalement, Victor s'oriente vers le dessin industriel, domaine dans lequel il va faire carrière, puis au milieu de ses études, il décide d'embrasser la foi catholique, tout en restant russe orthodoxe catholique. Et c'est ainsi qu'il a été diacre à Montréal, à la paroisse russe de la Présentation. J'invite les auditeurs catholiques, latins, aller de temps en temps dans cette église qui est située au nord de la rue Jarry, auprès de Saint-Laurent. Vous y verrez nos frères russes, entre parenthèses orthodoxes, mais catholiques qui reconnaissent le pape. Ils ont été sous la direction de gens extraordinaires comme le père Joseph le dit, le père Léonie. Il est ordonné diacre, Victor Boldireff, le 25 mars 1981. C'était un homme que j'aimais beaucoup. Et je tiens à saluer sa bonté. Je vous signale aussi de beaux ouvrages comme « Les grands mystiques russes » de Thomas Spidlik, des Russes orthodoxes. Magnifique livre chez Nouvelle Cité, paru il y a une dizaine d'années. « Les grands mystiques russes ». À la messe aujourd'hui dans l'église catholique latine, notre église catholique ici, il y a une lecture de saint Paul qui s'applique très bien au père Alexandre Maine et qui résume sa pensée. C'est saint Paul qui parle aux Colossiens. Frères, continuez à vivre dans Christ Jésus, le Seigneur, tel que nous vous l'avons transmis. Soyez enracinés en lui. Construisez votre vie sur lui. Restez fermes dans la foi, tel qu'on vous l'a enseigné. Soyez débordants d'actions de grâce. Et prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par leur philosophie trompeuse et vide, fondée sur la tradition des hommes, sur les forces qui régissent l'univers, et non pas sur le Christ. Car en lui, dans son propre corps, habite la plénitude de la divinité. En lui, vous avez tout reçu en plénitude, car il domine toutes les puissances de l'univers. Ça fait 2000 ans qu'on lit des textes comme ça. En vivons-nous? Sommes-nous transpercés comme Alexandre Maine par des textes comme ceux-là? Mais comment est mort Alexandre Maine? Le père Maine? Et comme tous les dimanches, en ce 9 septembre 1990, eh bien ce père Alexandre Maine s'est levé très tôt le matin pour aller dire la messe dans la petite église de campagne qu'il desservait depuis 20 ans à 40 kilomètres de là. Son éternelle serviette à la main, il a poussé le portillon du jardin, s'est dirigé de son pas rapide vers la station de chemin de fer pour monter dans un train de banlieue en direction de Moscou. Dans la brume matinale, il s'est engagé sur les 3 chemins à travers les arbres qui commençaient à perdre leurs feuilles. Une longue journée l'attendait. Les confessions, la messe, des baptêmes, des funérailles. Il serait certainement pris jusqu'au début de l'après-midi. Puis, il lui faudrait en hâte reprendre la route pour aller jusqu'à Moscou où il devait prononcer la 2e partie d'une conférence sur le christianisme, dont je vous ai parlé tout à l'heure, à la Maison de la Culture de la rue Volkonka. Depuis qu'en 1988, les autorités soviétiques avaient changé de politique à l'égard des croyants, comme je vous l'ai dit, bien le père Alexandre poursuivait au grand jour l'activité à laquelle s'était consacré jusqu'alors dans une quasi-clandestinité. Transmettre le message de l'Évangile à ses concitoyens. Vous direz, c'est élémentaire. Je connais bien des gens qui sont supposés faire ça puis qu'ils font pas. Transmettre le message de l'Évangile à ses concitoyens. C'est ça la tâche primordiale des évêques et des prêtres. Le 1er septembre, il venait juste de fêter le 30e anniversaire de son ordination. Désormais, il n'avait plus un seul instant de répit. C'est un cas unique en Union soviétique, et après que les croyants eurent été réduits au silence pendant 70 ans, lui, qui avait été surveillé par toute une équipe du KGB, était désormais invité dans les écoles, les instituts, les clubs, les maisons de la culture, vous en avez parlé, et à Pâques, il avait baptisé 60 adultes. Il se dépensait sans compter. Et ses proches s'en inquiétaient, mais il restait sourd à leurs conseils. Lui, il n'avait pas peur. C'est sûr, il paraissait parfois angoissé ces derniers temps-là. Ce qui était chez lui tout à fait inhabituel, d'ailleurs. Enfin, il aimait beaucoup la nature. Ces quelques minutes de marche le long du bois, dont les couleurs de l'automne jouaient sous les premiers rayons de soleil, ça allait sans doute lui donner des forces. Le paysage, il n'y a apparemment rien de singulier, et pourtant le lieu est particulier, parce qu'à quelques kilomètres de là se dresse le monastère de la Trinité Saint-Serge, dont je vous ai parlé tout à l'heure, au lieu de l'église orthodoxe russe. Au début du 14e siècle, Saint-Serge, dont je vous ai déjà parlé, au milieu de la forêt, y a fondé un ermitage, qui a redonné un très grand élan spirituel à la Russie, sorti profondément meurtri de l'invasion, des terribles Mongols de Jean Giscan. Andrei Roublev, ce fameux moine peintre, y a été moine. Et c'est lui qui est mort en 1450. C'est pour ce monastère qu'il a peint la célèbre icône de la Trinité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et Saint-Serge est né dans un village des environs. et souvent il a emprunté ce chemin sur lequel s'avançait à présent le père Alexandre. Mais quelques minutes plus tard, quand sa femme, parce qu'il faut dire que les prêtres orthodoxes peuvent être mariés, hein, le père Alexandre Maine était marié, il avait même deux enfants, un garçon et une fille. Et M. Boldireff, tout à l'heure, ce diacre catholique russe, avait 8 enfants, lui, 4 garçons, 4 filles, à Montréal. Alors donc, sa femme restait à la maison, Mme Maine, a ouvert la fenêtre, elle a entendu un gémissement, elle s'est précipitée dans le jardin et a aperçu derrière le portillon un homme étendu par terre dans une mare de sang. Elle est rentrée à l'intérieur, elle a appelé le secours d'urgence puis la police, et quand elle est ressortie, l'ambulance était arrivée. Elle a demandé au médecin, « Mais pourquoi vous faites rien ?» Ils ont répondu trop tard. Elle a fini par s'approcher, il y avait beaucoup de sang. Elle n'osait pas regarder. Alors seulement elle s'est interrogée, « Mon mari est bien arrivé. » Quelqu'un a dit, « Il n'avait pas un chapeau gris. » On avait retrouvé le chapeau avec une grande entaille. Et peu après, se sont présentés des témoins qui avaient croisé le père Alexandre Maine. Il était revenu sur ses pas vers sa maison, vers sa femme, et saignait abondamment. Il n'avait pas voulu qu'on l'aide. Il avait dû s'affaler devant le portillon, vidé de son sang. Une large blessure derrière la tête, manifestement provoquée par un coup de hache. Mais circonstance du crime, la précision avec laquelle le coup a été porté laissait penser que le meurtre a été soigneusement préparé et perpétré par des professionnels. Mais pourquoi avoir choisi une hache? Je vous ai dit, je vous l'expliquerai. Mais c'était de la hache que se saisissaient les paysans russes pour chasser les envahisseurs étrangers, les ennemis. Ça a toujours été le symbole pour eux, le symbole traditionnel de la vengeance populaire et du châtiment des traîtres. Mais d'autre part, et c'est terrible, la hache était aussi brandie contre les Juifs dans les pogroms. Or, je vous l'ai dit, le père Alexandre était précisément d'origine juive. Est-ce que ce serait pas un crime antisémite? Le père Alexandre lui-même s'inquiétait de la récente montée de ce courant xénophobe, où il voyait les germes d'un fascisme russe. Et dans les rangs même du clergé le plus conservateur, le père Alexandre n'avait pas très bonne presse, en particulier parmi les moines, précisément du monastère de la Trinité Saint-Serge, dont on pouvait presque apercevoir les coupoles bleues et or du fond de son jardin. Oh, on peut faire le rapprochement avec d'autres cas de prêtres sauvagement assassinés par les services secrets dans divers pays de l'Est, comme le père Popiejuszko, dont je vous ai parlé, je vous l'ai dit, le 19 octobre 1995, ce prêtre polonais noyé par des agents de la police polonaise en 1984. Il fallait s'y attendre. L'enquête ne donnait rien. Ne retourne jamais, d'ailleurs, ce qui est arrivé. On peut du moins être à peu près certain qu'il n'a pas été tué, le père Alexandre, par hasard, et que son assassinat a été directement provoqué par la force de son témoignage public et sa personnalité hors du commun. La presse soviétique a largement fait écho à la disparition du père Alexandre. 3 jours après, les Izvestia, vous savez, ce grand journal communiste de Moscou, les Izvestia, rendait déjà hommage à sa mémoire, et l'auteur de l'article a reçu des menaces par téléphone. Une femme l'a appelé pour l'insulter. Écoutez bien ça, elle lui dit, « Eh bien quoi? Pourquoi son Dieu ne lui est pas venu en aide? » Je me demande si elle savait que c'était bien justement les paroles qui ont été prononcées il y a 2000 ans par les passants au pied de la croix. Vous vous souvenez, hein? Il a compté, Jésus, là, il a compté sur Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il s'intéresse à lui, vous connaissez ça. Alors l'idée de la mort était familière au père Alexandre. Il rappelait souvent que nous n'étions que des passagers en ce monde, venus du mystère pour retourner au mystère. Ou comme dirait mon petit-fils Pascal à 12 ans, venus du cœur de Dieu pour y retourner. Cela ne devait pas nous effrayer. Mais au contraire, nous faire prendre conscience de la valeur de la vie. Il disait aussi, « La pensée que l'on va venir nous prendre doit nous stimuler, nous empêcher de nous laisser aller, de nous relâcher, de nous abandonner à l'inaction, à l'insignifiance. » Sait-on, moi le premier, ce que c'est que l'insignifiance, tout le temps perdu dans ma pauvre petite vie si courte? L'insignifiance. La pensée que l'on va venir nous prendre doit nous stimuler, nous empêcher de nous laisser aller à l'insignifiance. Depuis qu'il pouvait agir ouvertement, il semblait se hâter, comme si le temps lui était compté. Il disait, « Si je ne fais pas aujourd'hui ce qu'il faut, je regretterai d'avoir laissé passer le temps. » C'est ça qui fait les saints. Le sens du moment présent, ça a quelque chose qui tient un peu de l'ouvrage « Les mains sales » de Sartre. Aujourd'hui, à l'instant présent, on peut se sanctifier si on fait la volonté de Dieu, si on aime Dieu, si on se jette dans ses bras, si on le prend par la main, si on va avec lui. Plusieurs de ses amis pensent qu'il a eu une prémonition de sa mort. Il revenait de plus en plus fréquemment sur la fragilité de la vie. Nous sommes toujours au bord de la mort. Vous savez vous-même, comme il faut peu de choses pour que se casse le fil de la vie d'un homme. Et le dimanche précédant son assassinat, il avait inauguré auprès de sa paroisse une école du dimanche, comme je vous ai dit, pour les enfants du village. Et quel événement! Un cours de catéchisme tout à fait légal en Union soviétique, et on peut imaginer sa joie. Il en avait tant rêvé. Et pourtant, en ce jour de véritable fête, à l'étonnement de toute l'assistance, il avait commencé ainsi. Imaginez un cours de catéchisme à des enfants en disant, « Mes chers enfants, vous savez tous qu'un jour, vous mourrez. » Vous direz, il était fou. Mais non! Je crois qu'il faut vivre constamment dès l'enfance. Moi, j'ai été habitué à ça dès mon enfance, à vivre avec la mort. Et autrefois, les gens étaient habitués à vivre avec la mort, car nos mourants mouraient chez nous. On les laissait pas mourir tout seuls dans les hôpitaux, comme mon pauvre père qui est mort seul à l'Hôtel Dieu. J'ai reçu un téléphone à Radio-Canada pour m'annoncer que mon père était mort. Pourquoi m'a-t-on pas téléphoné plus tôt pour que je sois avec lui? Il y avait des règlements dans ce temps-là à Radio-Canada qui ne nous permettaient même pas de quitter notre bureau. J'étais chef de comité de lecture au service des textes et les règlements étaient très durs. Mais on est toujours du chagrin. Une des amies du Père Maine avait tenté de le persuader, de ralentir le rythme de ses activités. « Vous ne vous ménagez pas du tout. Vous n'êtes pas un enfant tout de même. Vous n'appartenez pas qu'à vous seul. » Il disait, « Je dois me dépêcher, il me reste très peu de temps, il faut que je réussisse à faire encore quelque chose. » On lui disait, « Mais c'est le cœur qui va pas. » Il dit, « Non, ce n'est pas un problème de santé, de ce côté, tout est en ordre, mais c'est ainsi, croyez-moi, je le sais, hein, le temps presse, le temps presse. » Moi, j'achève ma vie. 71 ans, combien de mois me reste-t-il à vivre? C'est urgent, même quand on a 20 ans. Un autre jour, alors qu'il essayait d'attraper un taxi, la personne qui l'accompagnait s'est plainte en soupirant de la longueur de l'attente. Il dit, avec beaucoup d'humour, « Ce n'est pas un taxi qu'il me faut, c'est un corbillard. » S'agissait-il d'une prémonition mystique ou bien s'il se sentait en danger? Sans doute avait-il reçu des lettres de menaces, mais il en était régulièrement gratifié, des lettres de menaces du KGB depuis des années. Peut-être que les lettres étaient de plus en plus explicites, peut-être avait-il été averti par d'autres signes plus précis, et son assassinat a soulevé une grande émotion. C'est seulement après cette tragédie que tout le pays a découvert la figure du père Alexandre Maine, je répète, M-E-N. Et le pays a pu en mesurer l'importance que dans les hautes sphères politiques, car le président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, a exprimé ses vifs regrets. Boris Eltsine a demandé au Soviet suprême, c'est-à-dire au Parlement de la Russie, qui présidait, alors d'observer une minute de silence et a fait envoyer une couronne de fleurs sur sa tombe. À l'étranger, le cardinal Lustiger, et qui s'était entretenu avec lui au cours d'un voyage en URSS quelques années plus tôt, a aussitôt fait part de sa tristesse en disant « Je suis consterné par l'assassinat du père Maine, que j'avais rencontré dans sa paroisse près de Moscou en mai 1989. Je vous rappelle que ce sont deux Juifs. Il avait un très grand rayonnement spirituel et intellectuel. C'était un homme de paix. Le cardinal Lustiger, toujours ce Juif, j'ai pu rencontrer plusieurs adultes baptisés par lui. Cette tuerie sauvage est un drame pour toute l'URSS, qui plus que jamais en ce moment de son histoire a besoin du message de l'Évangile. Tuer celui qui a donné sa vie pour ses frères, c'est non seulement s'opposer à Dieu, mais aussi atteindre sa propre nation. Je prie pour le père Maine, pour les siens, pour sa paroisse et pour toute l'Église orthodoxe si douloureusement meurtrie. J'aurais le goût de vous parler de ce père Alexandre Maine pendant des heures et des heures. J'aurais le goût de faire 5 émissions tout au long d'une semaine tellement je l'aime. Vous savez, c'était un homme extraordinaire, vraiment extraordinaire. Mystère de cette mort a été souligné par le patriarche de Moscou dans le message qu'il a fait lire le jour des funérailles. Il disait, d'un point de vue humain, il semblait qu'aujourd'hui seulement était enfin venu le temps où le talent du père Alexandre a prêché la parole de Dieu et recréé une vie paroissiale authentiquement communautaire pouvait se déployer dans toute sa plénitude. Mort à 55 ans. La politique de libéralisation culturelle, liée à la perestroïka, avait été ouverte par l'autorisation d'un film intitulé « Repentir ». À la fin de ce film, on y voyait une vieille femme qui demandait le chemin de l'Église. Cette image est restée depuis dans les esprits comme le symbole du pays russe plongé dans l'athéisme et retrouvant le sens des vraies valeurs après 70 ans d'égarement idéologique et revenant à la foi. Je sais pas si nos gens bientôt vont nous redemander le chemin de l'Église. Or, le père Alexandre a été tué en allant dire la messe, c'est-à-dire précisément sur le chemin de l'Église. Et ses funérailles ont été célébrées le jour où l'Église orthodoxe commémore la décapitation de saint Jean-Baptiste, qu'elle appelle le précurseur, celui qui est venu préparer le chemin. Ce grand saint, saint Jean-Baptiste, que l'Église orthodoxe considère comme le plus grand saint après Marie, et dont je vous ai parlé, justement dans ce sens-là, vendredi dernier. Un jour, en 1984, alors qu'il était très menacé par le KGB, le père Alexandre Maine avait confié à ses amis, « Je me suis dit intérieurement que j'avais accompli ma mission, que j'avais fait ce que j'avais pu pour l'Église du Christ, et que j'étais prêt à me présenter devant le Seigneur. » Quelques jours avant sa mort, il avait ainsi conclu une conférence sur une religieuse orthodoxe russe qui avait émigré à Paris. Elle avait fait de la résistance pendant la guerre, elle avait sauvé des Juifs, elle avait été tuée par les nazis. Se donner jusqu'au bout, c'est accomplir l'Évangile. C'est seulement de cette manière que le monde est sauvé, se donner jusqu'au bout. Et c'est pour ça que cette religieuse orthodoxe russe, qui s'appelait Mère Marie Skoptsoy, c'est un nom difficile à prononcer, Skoptsoy, a été exécutée en 1945. Comme je vous ai dit, pour avoir sauvé des Juifs. Et je vais lui consacrer ma dernière émission le 29 mai prochain, le 29 mai 1998. C'est une vie admirable, qui m'a été envoyé par un prêtre russe orthodoxe de mes amis ici à Montréal. La personnalité de Jean XXIII, sur lequel Alexandre Maine a beaucoup lu quand il était étudiant, a produit sur lui une vive impression et il aimait à citer les paroles de Mgr Platon, métropolite de Kiev, mort en 1891, selon lesquelles nos cloisons terrestres ne s'élèvent pas jusqu'au ciel. Souvent, on pense que ça va jusqu'au ciel, ça va pas jusqu'au ciel, c'est des petites cloisons qui entrent les églises. Et pour Alexandre Maine, la séparation des églises avait été conditionnée par des différences d'ordre politique national, culturel. Il dit « Je suis arrivé à la conviction qu'en réalité l'Église est une et que les chrétiens ont été divisés surtout par leur étroitesse et leur péché. » Il racontait cette histoire dans la dernière entrevue qu'il avait donnée quelques jours avant son assassinat. Il va ajouter que récemment, 2 ou 3 personnes avaient quitté sa paroisse pour se faire catholique. Et la journaliste lui demanda alors s'il n'avait jamais lui-même songé à cette possibilité, puis il a répondu par une phrase lapidaire, « Pour moi, l'Église est une. Je pense que cela est dépourvu de sens. » C'est d'ailleurs le souhait que je formule, c'est que les Églises s'unissent en bloc. N'essayons pas de convertir les autres. Un à un. Analysons nos attitudes vis-à-vis nos frères orthodoxes et aimons-les, c'est tout. Alexandre Maine aimait profondément son Église, le pays de sa naissance, la culture russe à laquelle il devait tant et dans laquelle il se reconnaissait pleinement. Toute la sainteté russe avec Saint-Serge, Saint-Séraphime de Zarov dont je vous ai parlé le 2 janvier, Saint-Icône de Zatons dont je prépare une émission, puis les icônes russes, puis les grands penseurs religieux russes. Ah, c'était tout pour lui. Pour un juif chrétien, disait-il, la parenté charnelle avec les prophètes, les apôtres, la Vierge Marie et le Sauveur lui-même est un grand honneur et le signe d'une double responsabilité en tant que membre de l'Église et membre du peuple élu, car il appartenait au peuple élu. La veille de sa mort, dans sa conférence, je vous le rappelle, sur le christianisme. Ici, nous demandons, encore une fois, disait-il, quelle est l'essence du christianisme? Nous devons répondre, c'est la divino-humanité, l'union de l'esprit humain qui est fini, limité dans le temps, avec le divin qui est infini. C'est la sanctification de la chair, car à partir du moment où le Fils de l'homme a adopté nos joies et nos souffrances, alors ce que nous construisons, notre amour, notre travail, la nature, le monde, tout ce dans quoi il s'est trouvé, le Christ, où il est né en tant qu'homme et Dieu homme, tout cela n'est pas rejeté, n'est pas humilié, mais élevé à un nouveau degré. Et dans le christianisme, le monde est sanctifié, le mal, les ténèbres, le péché sont vaincus, mais c'est la victoire de Dieu. Cette victoire a commencé la nuit de la résurrection et elle continuera tant que le monde existera. Je m'arrête là pour aujourd'hui et la prochaine fois. Il continue. C'était les dernières paroles publiques du Père Alexandre. Cher Père Alexandre Maine, je vous invoque. Je vous supplie, vous qui nous écoutez, nous catholiques, je vous supplie de nous aider à approfondir notre foi au contact de votre grande Église russe orthodoxe. Par l'entremise peut-être de nos confrères russes qui sont unis à nous dans l'Église catholique. Je vous supplie de nous aider à ouvrir nos yeux et à découvrir vraiment le Christ et à nous donner à lui entièrement comme vous l'avez fait, comme vous l'avez aimé.